et ceux qui sont au soleil.
Ce qui vous permet de mesurer, mais il n'y a que les Chambonnais qui sont au soleil, hein, ce qui vous permet de mesurer à quel point il y a toujours un soleil joyeux qui rayonne sur le plateau, mais nous le savons tous, y compris en Toscane. Je vais me permettre d'associer à mes propos Florence Vernet-Caron, qui œuvre à mes côtés à la région, et j'expliquerai l'engagement qui est celui de la région ici, et Olivier Amral, qui nous a fait le plaisir de venir avec quelques amis ardéchois qui sont présents. Merci Olivier de ta présence. Au fond, mon message sera très simple. On a besoin de la voix du Chambon-sur-Lignon. Et je voudrais juste, avant d'expliquer pourquoi est-ce que je le crois, l'évoquer à travers la diversité des personnes qui sont ici présentes et qui disent beaucoup de choses. D'abord, la première, c'est vous, Madame le Premier ministre, qui incarnez, au fond, la continuité de la République qui s'est faite ici et de l'attention de la République au message du Chambon-sur-Lignon. Vous êtes toujours présente, avec une continuité, une fidélité à ce lieu qui est absolument admirable. On a eu aussi le plaisir d'avoir ici la visite de Jacques Chirac, qui avait été un souvenir très fort pour nous et qui était à l'époque accompagné de Simone Veil. Maman a évoqué à quel point, emportée par en ce moment la maladie, la voix de votre mère ne peut pas être présente à nos côtés, mais à quel point elle nous imprègne. Et pour reprendre un propos que me soufflait le grand rabbin, on lui souhaite de continuer à nous inspirer au moins jusqu'à 120 ans pour faire référence à ce qui est la tradition juive. En tout cas, transmettez-lui toute notre affection, et vous savez qu'elle est grande parce qu'elle était présente au Chambon-sur-Lignon au moment de du déplacement du président. La deuxième incarnation de la voix du Chambon-sur-Lignon, c'est vous, qui représentez nos autorités spirituelles. Autorité, je ne sais pas si le terme est adapté, mais en tout cas, la place de la spiritualité ici est de la religion. Et elle a un grand sens, j'y reviendrai dans ce lieu, parce que les choses ne se sont pas faites par hasard. D'abord vous, monsieur le grand rabbin Incorcia, vous étiez présent quand on avait fait l'inauguration. Merci de votre présence sur la durée. Merci à vous, monsieur le grand rabbin Wertenschlag, en honorant une promesse que vous m'aviez faite, qui était d'accepter de venir, ce qui pour un Lyonnais est quand même un long périple, depuis la place Bellecour jusqu'au sommet des hauts plateaux du Lignon. Vous savez que c'est un itinéraire que j'aime beaucoup faire à beaucoup de Lyonnais. Je suis très heureux que vous soyez présent aujourd'hui et que vous ayez honoré cette parole. Je remercie aussi le président Honegger. Évidemment, ici, vous êtes dans un lieu qui est un des berceaux de la pensée protestante. Et ce qui s'est passé ici est intrinsèquement lié à ce qui est aussi la pensée et l'éthique de la résistance spirituelle qui est au cœur, il me semble, de ce qu'est la culture et de l'approche protestante. J'y reviendrai aussi. Et puis enfin, Monseigneur Gobillard, c'est la première fois que je l'appelle ainsi. On est très fiers de lui parce qu'il était d'abord père en Cloire, maintenant il a été nommé à Lyon. On aime bien quand ça se passe comme ça, dans ce sens du fleuve. On est très fiers de toi, Emmanuel, et si je peux me permettre une pensée, surtout ne change pas. Je me permettrai d'associer aussi Nicole Bornstein et Yves Galancien. Tous les deux, votre présence nous honore. On a eu à avoir des échanges importants à des moments qui ont compté pour moi, et j'ai toujours pu compter, Nicole, sur votre droiture et votre compréhension, que vous veniez pour la première fois sur ce site du Chambon-sur-Lignon. Vous vous rendez compte le chemin qu'il a fallu faire, il a fallu que l'Auvergne annexe Rhône-Alpes pour que j'arrive à faire venir Nicole ici. Mais on est très heureux qu'elle ait ainsi fait le déplacement. Je me permettrai d'y associer Thierry Philippe, président de la Maison des Yeux, ainsi que toute l'équipe de la Maison des Yeux qui est ici. Et merci Thierry, j'y reviendrai, de votre compréhension dans ce qu'on essaye de construire et sur lequel j'ai vraiment apprécié votre sens de la parole de Dieu. Et puis enfin, il y a quelques petits groupes que je voudrais honorer. Louis Bénèche. Alors lui a souvent travaillé dans des lieux plus modestes, tels que Versailles. Et puis il a compris que maintenant il fallait passer une gamme au-dessus. Et donc il a travaillé au Chambon-sur-Lignon. Merci Louis d'avoir compris que après Versailles, petit jardin plus modeste, il y avait des lieux plus importants qui nécessitaient votre vocation et votre regard. En tout cas, merci de votre générosité. C'est tellement rare d'avoir des gens qui sont capables de faire de grandes choses dans de grands endroits divers. Merci de l'avoir fait avec tellement de générosité et avec une joie contagieuse qui est quand même votre marque de fabrique. Et puis, je voudrais enfin me tourner vers trois groupes de personnes qui ont pour moi beaucoup de signification. La première, d'abord, c'est vous, Prosper, Laurent, Georges-Henri. Je me souviens encore de la réunion que nous avions faite à l'époque au Quai d'Orsay, où j'essayais avec le plus de diplomatie possible de vous convaincre de venir vous investir ici à nos côtés. Et Prosper, à la fin du dîner, avait dit « Bon, allez, maintenant ça suffit les palabres, combien est-ce que chacun met en mécénat pour que cette maison et ce lieu de mémoire sortent ?» Prosper, merci. Merci Laurent, merci Georges-Henri. Ce lieu n'aurait pas été possible sans l'investissement qui a été le vôtre et la moitié d'accompagnement qui a été fait par le biais du mécénat. Donc énormément de gratitude à vous et surtout de votre fidélité. Je me permets d'y associer M. Merle, je me permets d'y associer M. Gazel et leur accompagnement qui a permis et qui permet sur la durée la structuration de nos expositions et la vie de ce lieu de mémoire. Et puis enfin, je voudrais me tourner vers vous, qui êtes ceux qui incarnez le Chambon. Et c'est très important que dans ce lieu, il n'y ait pas de différence. Que nous avons ceux qui vivent le Chambon-sur-Lignon au quotidien et qui sont les dépositaires de cette mémoire. Qui sont tous des caractères exceptionnels dans des personnes qui sont très attachées à rester des gens ordinaires. Et j'aime ça. Et j'aime le fait que tout en étant dans notre village du Chambon-sur-Lignon, qui est un village parmi d'autres comme les autres, nous ayons ici des personnalités qui sont exceptionnelles, qui portent à la fois cette histoire sans se laisser opprimer par cette histoire, et qui le font à leur façon avec leur musique. Il y a ici plus particulièrement deux personnes qui sont dépositaires de cette histoire et auxquelles je voulais rendre hommage, qui sont Gaby Hérault et René Rivière, parce que l'histoire est avec vous et c'est vous qui la portez, et je voudrais qu'on puisse vous applaudir tous les deux. Merci à vous. Alors, pourquoi a-t-on besoin de la voix du Chambon-sur-Lignon ? On a besoin de la voix du Chambon-sur-Lignon parce que c'est une voix éminemment singulière. Elle est singulière, il me semble, Gérard, pour trois raisons. La première, d'abord, parce que c'est une voix collective. Il y a eu beaucoup de gestes qui ont été héroïques dans cette période. Il y a eu beaucoup de résistances qui ont été des résistances individuelles fortes et admirables. Mais très rares ont été les lieux qui, collectivement, sans défaillance individuelle, avec une vision qui a été portée ensemble par un groupe, par une communauté qui est celle du plateau, a résisté ensemble et a perçu avant les autres ce qui était injuste et ce qui devait amener à une résistance. C'est la première singularité de cette voix du Chambon-sur-Lignon. La deuxième singularité de la voix du Chambon-sur-Lignon, et qui est pour moi toujours une source d'interrogation, c'est qu'elle est faite dans un lieu où il n'y avait aucune raison en apparence de réagir comme ça. Un lieu qui était protégé, un lieu qui était à l'écart des turbulences de la guerre, un lieu dans lequel vous n'aviez pas a priori de très 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 grandes figures intellectuelles, vous n'aviez pas de très 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 hauts fonctionnaires, vous n'aviez pas de très très grandes élites intellectuelles, mais vous aviez des gens qui, par leur éducation, par leur parcours, y compris protestants et spirituels, ont senti plus facilement et plus rapidement que les autres ce qui était juste et ce qui était injuste. Les grandes figures politiques de l'histoire de France, capitulaires. Les grands hauts fonctionnaires au Conseil d'État regardaient les décrets anti-juifs au même moment en s'interrogeant sur le fait de savoir si la virgule devait être placée là et s'il fallait une conjonction ou une négation à tel endroit dans le décret anti-juif. Et ici, des gens qui n'avaient sans doute pas en apparence le même niveau d'éducation, mais qui avaient au fond d'eux une empreinte profonde dans leur âme, dans leur éducation familiale, dans leur simplicité, ont été capables de réagir collectivement avant les autres. Et il me semble, hier, maman, tu l'évoquais, que Boris Cyrulnik l'évoquait, quand on est face à la haine, quand on est face à l'intolérance, la réflexion excessive aboutit à troubler le jugement. Et il faut d'abord une réaction qui soit instinctive et intuitive. Et puis la troisième chose qui est la plus belle, tant de lieux de mémoire sont des lieux de mémoire de mort. Tant de lieux de mémoire sont des lieux de mémoire dans lesquels les vies ont été perdues. La photo que vous avez choisie, maman, est une très belle photo. Parce que ce sont des visages souriants, et je sais que tu y tenais. Ce sont des visages d'enfants qui souvent, quand on les a interrogés ensuite, ont dit, mais parmi mes plus beaux souvenirs d'enfants, il y a aussi mes souvenirs d'enfants ici, au Chambon-sur-Lignon. Et c'est tellement beau, dans cette mémoire de la Shoah, dans cette mémoire de la destruction, qui est une mémoire de vie atteinte, de vie détruite, de famille traumatisée, il y a aussi cette petite lumière, qui est la lumière de la voix du Chambon-sur-Lignon, et qui est un message d'espérance. Si vous additionnez les trois ensemble, vous avez au fond une musique qui est très singulière du Chambon-sur-Lignon, qui est une espérance dans l'âme humaine. Tant d'autres lieux sont des lieux de tristesse sur ce que peut être une partie de l'âme humaine. Et ici, au Chambon-sur-Lignon, c'est un message profond d'espérance dans l'âme humaine. C'est pour cette raison que j'ai la conviction que les mémoires autour de la Shoah sont des mémoires complémentaires. Vous savez, c'est évidemment aussi un fils qui parle. Monsieur le grand rabbin, vous m'avez rappelé cruellement en portant un verre d'eau à ma maman alors que je n'osais pas le faire. Chez nous, dans la famille, c'est assez rare qu'on exprime ses sentiments. Mais je suis fier de ma maman. Et je suis profondément fier de ce qu'elle a été capable de faire avec tout le Chambon-sur-Lignon. Il est rare que je lui dise, parce que que j'ai une mère qui a un fort caractère. Certains disent parfois que j'ai trop de caractère, mais c'est rien par rapport au caractère de ma mère. Et puis surtout, elle est assez pudique dans ses sentiments. Mais maman, je suis fier de toi. Et quand j'entends tant de personnalités différentes dire qu'ils sont si heureux de te connaître, et avec toute la subjectivité d'un fils, je suis fier de ce que vous avez fait ensemble. Et je suis fier surtout d'une chose. Vous avez transmis cette mémoire alors qu'elle allait se perdre. Vous avez amené chaque juste et chacune des familles de ce plateau à comprendre que ça n'était pas un geste d'orgueil, mais que c'était un geste de responsabilité de veiller à ce que cette voie de la mémoire ne se perde pas. Et je suis fier aussi, Nicole, que vous ayez transmis cette mémoire sans altération, que vous l'ayez faite dans sa pureté, sans chercher à ce qu'il y ait la moindre récupération politique, mais juste à transmettre ce qu'est la mémoire forte et qui tient elle seule sur ses deux jambes, qui est la mémoire de notre plateau et du Chambon-sur-Lignon. Dernière, elle est transmise avec son interrogation. Qui peut savoir ce que nous serons amenés à faire si nous faisons face à des pages sombres telles que celles qu'ont connues ceux qui ont vécu ici? Qui peut être sûr de dire qu'il sera à son tour juste? Mais j'ai une conviction, c'est que quand on est passé à travers un lieu comme Izieux, quand on est passé à travers un lieu comme le Chambon-sur-Lignon, quand on a compris ce qu'était la mémoire de Dieu le Fils, on a plus de chances de savoir réagir avec justesse. On a plus de chances de savoir distinguer ce qui est juste et injuste. C'est pour cette raison que j'ai souhaité, et je remercie le président Philippe de l'avoir compris, que la mémoire de nos lieux autour de la Shoah soit diverse et que nous puissions organiser un parcours à l'échelle de notre région qui permettent d'organiser aussi bien pour nos enfants, pour nos écoles, pour nos lycées, la capacité de le comprendre en allant à Izieux, en allant au Chambon-sur-Lignon et en allant à Dieu le Fils. Izieux a été formidablement aidé et est un lieu éminemment précieux pour nous. Et il faut que nous puissions maintenant fortifier à son tour le Chambon-sur-Lignon et que nous puissions construire la mémoire de Dieu le Fils. Et il faut que nous puissions organiser un réseau dans lequel la mémoire d'Izieux est complémentaire de celle du Chambon-sur-Lignon, celle du Chambon-sur-Lignon complémentaire de celle de Dieu le Fils, et que tout ceci puisse se fortifier ensemble. C'est pour cette raison que j'ai souhaité que pour la première fois la région puisse accompagner sur son fonctionnement le lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon. Je souhaite que cela puisse monter en puissance. C'est pour cette raison que j'ai demandé à la maison d'Izieux, qui est celle qui a le plus grand passé et la plus grande expérience, de travailler en lien avec les autres lieux de mémoire pour que chacun puisse s'enrichir les uns des autres. Merci de l'avoir compris. Et merci d'avoir compris ce qui était ma volonté et qui s'inscrit profondément dans cette filiation et dans ce qui est notre devoir. N'oublions pas qu'à travers la Shoah, il y a toute notre réflexion sur l'âme humaine qui se joue. Et que face à, malheureusement, j'en suis convaincu, des pages sombres qui reviennent, nous avons besoin de cette voix. Nous avons besoin de la voix de la maison d'Izieux, nous avons besoin de la voix du Chambon-sur-Lignon, et nous avons besoin de cette voix d'espérance dans l'âme humaine, à condition qu'elle soit élevée, qu'elle soit éclairée, et qu'elle garde aussi sa simplicité de réaction. Est une âme humaine qui a des prodiges de générosité et de sacrifice quand on a affaire à ce qui est inacceptable. Merci à tous et merci de votre support pour la voix du Chambon-sur-Lignon.